le nouveau est dans le passé. Ça paraît totalement paradoxal, puisqu'on a toujours imaginé que le passé était dépassé.
En 1967, monsieur gagne pain et madame au foyer.
La maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, elle veut qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement.
L'histoire est d'abord faite de l'immense peine des hommes et de l'énergie des femmes. Le général de Gaulle, il y a un demi-siècle, imaginait encore mal qu'elle puisse être ailleurs qu'au foyer. Mais il savait qu'elles y déployaient la même volonté à l'échelle du ménage que lui à l'Élysée. Il était traditionnellement attendu d'elle la vertu de prévoyance. Dans l'armoire, les piles de linge bien rangées, dans la resserre, les conserves, dans les milieux populaires ou ruraux, entre le matelas et le sommier, les enveloppes contenant les billets destinés aux différents achats. Les dépenses devaient en effet être soigneusement échelonnées. On n'achetait pas la cocotte minute avant le moulin à légumes. C'est qu'il y a maintenant la cocotte minute et l'aspirateur et la machine à laver le linge. Le lave-vaisselle vient de faire son apparition en 1965 seulement. On s'est étonné que cette année-là, dans la campagne présidentielle, le général s'occupe de ces nouveaux sujets de peu d'importance pour les gens qui avaient encore des bonnes et des femmes de ménage. Ça, c'est le mouvement, disait-il justement. Le maître mot, depuis les années 50, avait été productivité. Elle s'était appliquée dans les bureaux avec la mécanographie. Elle change à leur tour les maisons et les appartements. Un rôle différent du répertoire traditionnel s'ouvre pour madame au foyer. La voici. Invitée à calculer tout le temps qu'elle pourra économiser sur les activités domestiques anciennes, invitée à le transformer en temps affectif. L'enseignement des médias de l'époque nous présente une nouvelle femme modèle, la technicienne de la vie heureuse.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Non, aujourd'hui, 8 mars, c'est Claire Milon, bonjour.
Bonjour.
Qui travaille sur le féminisme allemand sous la République de Weimar. Et Ilinka Negulesco, bonjour.
Bonjour Jean.
Qui pourrait faire une thèse sur le masculinisme à la marge de l'histoire, oui. Qui la présente. Je vous appellerai bien mes saintes chéries, mais vous n'allez pas aimer.
Non, pas du tout.
Oui, mais il y a une explication, c'est que cette émission va être rythmée par cette série télévisée qui avait alors beaucoup de succès et dont les héros, Monsieur Gagnepain, étaient Daniel Gélin et Madame au foyer, Micheline Prel.
Maman, c'est sûr, elle a toujours voulu être maman. D'ailleurs, pour rien au monde, je voudrais qu'elle fasse autre chose.
Une femme qui a un mari doit savoir résoudre les 1000 petits problèmes posés par la vie en commun avec cet être étrange, l'homme. Tout d'abord, une femme mariée n'oubliera jamais, même si elle travaille de son côté, qu'elle a épousé un travailleur. C'est lui, l'homme, qui se lève pour gagner le pain quotidien du ménage, et tous les égards lui sont dus à l'heure douloureuse où il se prépare à accomplir son devoir.
Chérie.
Qu'il aille à l'école ou au bureau. Il y a, Dieu merci, toujours un ange féminin pour veiller au départ de l'homme.
Ouais.
Hey, Clé. Où sont-ils?
Voilà.
Là, au fond. Au revoir. Bon, dis donc, si tu rencontres le concierge, surtout dis-lui bonjour. Il va me dire encore que t'es pas aimable.
Pas aimable, moi.
Le premier rôle de Madame au foyer, c'est justement de créer ce foyer, c'est-à-dire un environnement affectif stable et sûr pour toute la famille. Elle doit donc prendre soin de son mari et des enfants. Et c'est ce que nos amis sociologues appellent le care. En anglais, c'est prendre soin.
Pardon, ma mère aurait été assez étonnée d'entendre ce mot care. Mais bon, je me tais dorénavant.
En 1967, toutes les femmes ne sont pas au foyer dans un appartement en ville. Les ménages ouvriers constituent 40% et les ménages ruraux 15% du total de la population. Sans oublier que 38% des femmes travaillent. Mais c'est ce milieu urbain et cadre qui fait l'opinion, qui forge les codes et intéresse en priorité la radio et la télévision.
Bon, ouf, ils sont enfin partis. Madame au foyer commence par faire les lits. Peut-être faudrait-il racheter des draps, ceux du trousseau sont usés.
Nous avons analysé le comportement des femmes qui sont préoccupées par l'achat du linge et nous avons constaté qu'elles se situent maintenant en deux classes différentes et distinctes l'une de l'autre d'une façon assez fondamentale. D'une part, nous trouvons la tradition, c'est-à-dire les femmes qui considèrent que l'achat du linge est une chose grave, sérieuse, importante, qui doit se calculer longtemps à l'avance et qui continuent à acheter leur linge pour une vie entière. C'est le trousseau. Mais d'autre part, nous trouvons des femmes qui, pour reprendre le langage des économistes, considèrent que le linge n'est plus un bien d'équipement, mais un bien de consommation, et qui achètent ce drap de lit, ou ce linge de maison d'une façon générale, juste la veille du besoin, ou en constatant que le drap qu'on vient de laver est usé, qu'il faut le remplacer. Elles achètent donc par petites fractions et au fur et à mesure, sans attendre pour ça la période de réclame. C'est comme ça, du reste, que le linge qui était réputé être un article cher ne l'est plus.
Madame Madéouzé, vous avez eu la chance d'avoir une grand-mère qui vous laisse des armoires bien remplies, mais je crois que c'est du linge blanc, du linge traditionnel. Est-ce que vous ne succombez jamais à la tentation des réclames de janvier ?
Ah mon Dieu, là vous touchez un problème qui me tient bien à cœur, effectivement. Vous avez vu mon armoire, elle est bien remplie. Par respect pour ma grand-mère, j'utilise ses draps, mais bien souvent, je succombe à la tentation d'avoir des choses plus colorées, plus gaies. Alors, j'ai résolu le problème en mettant des galons, en posant des fleurs, en essayant d'arranger. Mais cette année, j'avoue que je suis passée outre et pour mes filles, j'ai acheté des draps très, très colorés, très fleuris et... Tant pis pour grand-mère.
Et oui, c'est le passage du drap de lin au drap de coton.
Le soin de la couture peut être envoyé au soir, mais pas celui du raccommodage. 2 heures par jour sont consacrées au souci de faire durer les vêtements.
Maintenant, je m'adresse au professeur
de raccommodage.
De raccommodage, c'est très important ça, madame. Et vous, madame, vous êtes professeur de couture. Alors, professeur de raccommodage pour les monitrices d'enseignement ménager.
Oui. Et professeur de couture pour les élèves des écoles de Paris, des cours complémentaires.
Des cours complémentaires. Il n'y a pas de professeur de déménagement, c'est dommage, parce qu'on assiste à un déménagement en ce moment. Ce qui m'a frappé, c'est que le raccommodage et aussi la couture dans le cadre familial, c'est-à-dire pour les robes des enfants, pouvaient se faire très rapidement.
Par exemple, aujourd'hui, cette pièce que nous avons posée était une pièce à 4 coins qui avait certainement 35 cm sur 25 cm et l'élève a mis au maximum 5 minutes pour poser cette pièce en couture rabattue.
Il y a les temps de raccommodage à l'aide d'une demi-minute à 3 ou 4 minutes, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, suivant qu'il s'agissait de coller une pièce avec un tissu plastifié.
Ça, c'est magnifique, cette façon de raccommoder, ça me conviendrait parfaitement.
Mes petites élèves de fin d'études sont déjà entraînées et elles ont un vif plaisir à raccommoder aussi rapidement.
Et madame, vous prépariez les robes et les petits pantalons pour 2 enfants
oui.
qui devaient avoir entre 3 et 5 ans,
c'est
n'est-ce
ça,
pas
oui,
et vous avez donné des prix de revient remarquables.
Oui, nous avons acheté des tissus de coton qui sont d'ailleurs très solides et dont le prix de revient est assez bon marché puisque la maman le fait elle-même. Par
oui.
exemple, un pyjama d'enfant revient à 800 francs environ. Un petit pantalon, mettons 1200 ou 1500 francs.
C'est eh bien, même... voilà qui va faire rêver nos auditrices.
Madame au foyer ne reste jamais sans rien faire. Elle doit constituer un exemple d'énergie. Dans les moments où elle ne tricote pas les pulls pour la maisonnée, elle confectionne des vêtements plus élaborés qu'elle imite de patrons publiés dans les journaux spécialisés comme Mode et Travaux. Il arrive même, si l'esprit est aussi véloce que les mains, qu'elle puisse suivre les indications fournies dans le magazine Féminin, produit quotidiennement à la télévision par Maïté Sellériette-Sanois.
Le cours de coupe de Simone Deshaies, commenté par France Guiritté. C'est le moment ou jamais de vous faire une robe manteau. Celle que nous vous proposons aujourd'hui est en lainage rose indien, la couleur vedette du printemps. Vous aurez besoin de 2 hauteurs de tissu en 140 de large. Séparez ces 2 hauteurs de tissu que vous laisserez plier par le milieu. Vous poserez le dos sur le devant en prenant soin de mettre la pliure du milieu du dos à 2 cm des lisières du milieu du devant. Ceci fait, vous reportez en haut à partir de la pliure du milieu du dos la mesure de votre tour de poitrine divisée par 4. Vous avez marqué un point. La mesure de votre tour de hanche, augmentée de 10 cm, est divisée ensuite par 4. Reportez cette mesure en bas du tissu à partir de la même pliure et faites un trait de haut en bas. Coupez en dehors du trait en prévision des coutures.
Les courses prennent beaucoup de temps dans la matinée. Les centres commerciaux en sont encore à leur début. Et le midi, il est plus fréquent qu'aujourd'hui que les enfants et le mari reviennent déjeuner. La cuisine, c'est donc deux fois par jour. S'il faut à cette fin utiliser un livre, c'est d'abord la Bible de Ginette Mathiot. Ginette Mathiot est née en 1907 d'un père pasteur protestant et d'une mère alsacienne effacée. Après des études brillantes au lycée Fénelon, sa famille lui interdit de poursuivre des études de médecine. Elle lui interdit aussi de se marier avec un homme qui ne soit pas protestant. 7 prétendants seront rejetés par ce père austère. Si les gens qui se servent de mon livre savaient combien de larmes d'amour contrariées ont mouillé les fiches sur lesquelles j'écrivais mes recettes.
C'est Albin Michel qui a découvert Ginette Mathiot en 1932. Elle avait alors 23 ans et lui a vendu le manuscrit pour 8000 francs. Des recettes peu onéreuses et simplifiées pour une cuisine de ménage. Le livre connaît un second souffle avec sa réédition en poche en 1955. Ici, Ginette Mathiot participe à la fameuse émission « Art et magie de la cuisine » où chaque lundi depuis des lustres, Catherine Langer tente d'exister auprès du grand chef de grand renom, Raymond Oliver.
Ginette Mathiot, vous êtes l'écrivain culinaire le plus lu du monde entier. Vos livres sont des best-sellers et l'un d'eux, « Je sais cuisiner », a dépassé le tirage d'un million. Quel effet ça vous fait d'être millionnaire ?
Aucun, sauf si vous me demandiez de loger tous les livres chez moi, parce que ça ferait un certain cubage, penser 7 appartements de 4 pièces.
Diable. Et dans ce livre, alors dans Je sais cuisiner, avez-vous choisi une recette que Raymond Oliver va nous réaliser ce soir ?
Oui, j'aimerais beaucoup que Raymond Oliver puisse faire aujourd'hui la recette du pain de macaroni, qui est, si je ne me trompe, le numéro 1292 dans Je sais cuisiner.
Le pain de macaroni.
C'est une recette qui me plaît beaucoup parce qu'elle est d'origine familiale.
Eh bien, Olivier, Raymond.
Vous faites quoi, de la musique ?
Non, je vais faire cuire le macaroni parce que pour faire un pain de macaroni, c'est comme pour la recette du civet de lièvre. Pour faire un bon civet de lièvre, prenez un lièvre. Pour faire un bon pain de macaroni, prenez du macaroni.
C'est vrai ?
Alors, macaroni qui va cuire, voyez-vous, pendant 15 minutes. Alors, dans l'eau, bien entendu.
Allez, je prends ma montre.
Mais dans l'eau salée. Alors, on va mettre une pincée de gros sel. Voilà qui est fait.
J'appellerai
ça
une petite
pelure. On va mélanger un tout petit peu pour éviter que le macaroni ne collasse au fond de la casserole.
Je verrai très volontiers des garçons faire de la cuisine. Nous avons d'ailleurs des écoles pilotes.
Là, je vous vois venir. Vous êtes encore de ces femmes qui estimaient que quand l'homme a la cuisine pour hobby, il salit partout, il dépasse de la marchandise, il fait beaucoup de vaisselle et il laisse beaucoup de vaisselle sale.
Oui, je suis un petit peu de ces femmes-là.
Ben, c'est aimable. C'est peut-être pour ça que Raymond Oliver, d'ailleurs, a écrit « Cuisine pour homme seul ».
Pour les hommes.
Cuisine pour les hommes.
Cuisine pour les hommes. Oui, c'était un livre qui a été tiré à 225 exemplaires. Non, c'est pour faire un petit peu d'opposition avec le million de mademoiselle Mathiot. Non, c'est pas vrai, d'ailleurs. Il est d'ailleurs épuisé. Mais c'est un livre qui était fait pour les gens qui étaient arrêtés par des questions de technique, qui voulaient dépasser un tout petit peu ce stade. Alors c'était un petit peu l'explication de la technique.
Et puis un violon d'Indre.
Pour les amateurs.
De la pêche à la ligne. Mais on n'apprenait pas à laver la vaisselle.
Ah là 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 là. Je sens qu'on va la faire.
Eh oui, on va la faire.
Ah, quel plaisir de laver la vaisselle, l'éponge en main et la joanne dans le cœur. Frotter, rincer les plats, les écuelles, les essuyer avec beaucoup d'ardeur.
Belles et assiettes, cuillères et fourchettes,
et verres et couteaux,
voyez-moi si c'est beau.
Toutes ces piles,
comme ça défile,
le temps n'est rien quand on est bon copain.
Ah, quel plaisir de laver la vaisselle, l'éponge en main et la joanne dans le cœur. Frotter, rincer les plats, les écuelles, les essuyer avec beaucoup d'ardeur.
Ça marche ?
Ça marche.
Passe-moi une assiette.
Tiens.
Oh.
Oh, ben la v'là en miette. Mais qu'est-ce que t'as en ce moment, toi?
Je sais pas, je suis pas dans mon assiette.
Attention à la soupière. Hein? Attention à la soupière.
Quelle soupière?
Oh, ben il casse la soupière, Roger Pierre.
Si je bête.
Un sourire heureux, de la vaisselle étincelante, Peck est là.
Peck dégraisse instantanément toute la vaisselle et la rend nette et brillante. Il n'y a plus qu'à la rincer et vous verrez, elle sèche toute seule.
Ainsi, chaque jour, Madame Perrin gagne du temps grâce à Peck. Aujourd'hui, elle va pouvoir jouer avec bébé. Ah, s'il pouvait toujours rester comme ça.
Oh !
Sans moustache, bien entendu.
Vous avez vu, avec Peck, j'ai gagné du temps. Ma vaisselle est toujours nette et étincelante. Et mes mains restent douces et blanches.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
1967, au temps où la femme était présentée dans les médias comme une technicienne de la vie heureuse et les hommes comme incapables, bien sûr, de faire la vaisselle. C'était Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Notre Roger Pierre et notre Jean-Marc Thibault, si je peux faire la comparaison, c'est Claire Milon et Elinka Negulesco qui ont préparé et présente cette émission. Ouf, ils sont partis une deuxième fois, après le repas, le mari, les enfants, nous sommes toujours dans les Saintes Chéries.
Oh, maintenant un peu de calme.
Une ménagère chez elle, au calme, allons donc.
Oui, voilà, voilà, voilà.
Bonjour madame, je parie que vous savez pas ce qu'il y a là-dedans. De la poussière. Voilà, alors dans une minute, je dis bien dans une minute précise, l'aspirateur Bild de la maison Bild et compagnie que je représente aura aspiré, nettoyé, que dis-je nettoyé, avalé cette immonde poussière que je viens de déposer à vos pieds ravissants. Dites donc, c'est vrai qu'ils sont ravissants ces pieds-là. Vous savez que des pieds de dame j'en vois, hein. J'en vois tous les jours. J'en vois avec des corps, j'en vois comme des péniches, mais alors des comme les vôtres, j'en ai jamais vu. Ils sont adorables. Voilà, je m'égare. L'aspirateur Bilt de la maison Bilt et compagnie que je représente, dans une minute, aura ramassé cette immonde poussière terreur de la ménagère. Et alors, attention, l'aspirateur Bilt fait tilt. Garantie supplémentaire, je m'engage à aspirer moi-même la poussière si l'aspirateur Bilt ne fait pas tilt. La brise est là-bas, je reviens immédiatement.
Moi, monsieur, j'ai tout besoin d'aspirateur.
On a toujours besoin d'un aspirateur Bilt chez soi. L'aspirateur Bilt sert de sèche-cheveux, de ventilateur pour les journées caniculaires, de pistolet pour repeindre vos murs. Attention, le miracle!
La maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, elle veut qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille.
Ah, le progrès. C'est au salon des arts ménagers qu'on le trouve. Il existe depuis 1923, mais c'est depuis la Libération qu'il a décollé. À partir de 1961, il se tient sous l'arche de béton toute neuve du CNIT à La Défense. 3 200 000 personnes s'y rendent en 1965. À titre de comparaison, le Salon de l'agriculture aujourd'hui en compte 600 000. Il se décline dans de nombreuses expositions en province, s'accompagne d'un magazine qui porte ce nom.
Aujourd'hui, visite en détail du domaine de la cuisine. Que vous faut-il aussi pour faire de la bonne cuisine? De bons ustensiles. De plus en plus appréciés et de moins en moins chers, les autocuiseurs.
Voilà maintenant 3 marmites qui feraient bien envie à Monsieur Papin. Hein, ce sont des marmites extraordinaires pour la femme pressée.
Exact.
Puisqu'elles lui permettent de cuisiner très rapidement des plats tout en leur gardant leur saveur et leurs vitamines.
Assurément. Si vous considérez les autocuiseurs que nous vous présentons aujourd'hui, ils se réfèrent toujours à une tradition absolue, à savoir que quand on cuit en autoclave, on cuit fermé d'une façon certaine et on cuit surtout en sécurité. Pour la dame qui n'est pas forcément une technicienne, elle aura besoin d'avoir un appareil sûr sous la main. Cet appareil étant conçu dans des normes de protection extérieure au point de vue métal, épaisseur et rendement de résistance, il n'y a pas de problème qui se pose à partir du moment où l'on peut cuire fermé. Et quand on dit cuir fermé, on veut dire par là que à partir d'un certain stade de cuisson, on va s'apercevoir que l'ébullition va se faire, la vapeur va sortir. Cette vapeur va être contrôlée ici par un sifflet de sécurité, et même encore que celui-ci serait bouché, automatiquement nous avons une soupape, comme il est recommandé dans tous les autocuiseurs existants à cette heure. Ce qui va intéresser la clientèle concernant les nôtres, c'est le prix, la sécurité, le prix, la garantie, la valeur fondamentale de nos appareils est toujours basée sur le prix. Et lorsque nous vendrons cet appareil, lorsque nous allons le lancer dans le commerce, je crois que nous serons généralement en dessous d'un taux de 30 à 40% sur ce qui se fait dans le commerce normal.
La machine à laver est aussi une vraie révolution. Les premières machines à laver qui entrent dans les foyers français dans les années 50 et 60 sont encore peu adaptées au logement. Il faut, par exemple, pour chaque lavage, raccorder la machine au robinet et mettre le tuyau de vidange soit dans l'évier, soit dans la douche. Les cuisines trop petites ne sont pas adaptées pour cette nouveauté et contrairement aux États-Unis, l'eau chaude ne coule pas encore directement au robinet. Donc pour chauffer l'eau, les machines sont équipées d'une rampe à gaz, ce qui oblige à charger le linge par le haut. La France, encore aujourd'hui, est le seul pays où l'on trouve des machines qui se chargent ainsi. Il faut donc toute une formation pour apprendre à se servir des nouvelles techniques.
La France a d'ailleurs mis au point un enseignement ménager pour apprendre aux femmes à bien diriger le foyer. Ginette Mathieu en était la figure de proue. Puériculture, cuisine, bricolage, des cours variés sont proposés dans les établissements scolaires et des délégués sont envoyés jusqu'au salon des arts ménagers.
Nous sommes ici à Malakoff, dans un groupe d'HLM construit par la Caisse des dépôts et consignations. C'est Mademoiselle Rère, monitrice d'enseignement ménager à la Caisse d'allocation familiale. Je crois que vous donnez d'abord un cours de tricot, n'est-ce pas ?
Oui, madame, un cours de machine à tricoter.
Alors, en dehors de ce cours de machine à tricoter, mademoiselle, vous apprenez aux femmes à se servir de machines à laver.
Oui, madame. Et toutes les machines à laver n'ont pas le même fonctionnement, mais nous en avons une qui est le système de Barbotte, qui est assez simple et dont les femmes apprennent à se servir elles-mêmes. Lorsqu'elles ont appris le fonctionnement de cette machine, elles peuvent venir au centre et s'en servir en apprenant également à se rendre compte du degré de salissure du linge, ce qui est très important.
Oui, et aussi des sortes de détersifs qu'il faut employer suivant les différents tissus, sans doute.
Suivant les différents tissus et aussi suivant les différents types de machines. Car une machine qui lave dans beaucoup d'eau emploiera une lessive tout à fait différente qu'une machine qui lave dans peu d'eau.
Grâce aux arts ménagers, on peut dominer les effets d'une vie haletante. Et le soir, goûter la paix du chez-soi, à la lueur de la lampe, pendant que ronronne le poêle, ou mieux, la chaudière.
Mais flûte ! Il y a ces invitations qu'il faut lancer, et encore celles qu'il faut rendre. Nous fermerons cette marche de l'histoire comme nous l'avons ouverte, avec les saintes chéries. Monsieur Gagnepain pense qu'il obtiendra plus facilement une augmentation en conviant son patron à un dîner, dont l'organisation incombe évidemment à madame au foyer.
Bon, ben alors, avec ton patron, on pourrait peut-être inviter les Arnaud Fabien.
Oh, ils sont ennuyés à mourir.
Ah oui, mais il est attaché culturel en zombie, ça nous poserait.
Ah, zombie, ah oui, alors là, évidemment, alors là.
Ah, puis aussi les Rompelmeyers, on leur doit une politesse.
Voyons pour le menu. Comment je pourrais faire des filets de sol normands avec beaucoup de crème? Tu sais comme à l'Élysée.
Ah oui, mais il faudrait leur demander d'apporter des loupes, alors, parce que les filets de sol, ça réduit tellement qu'on dirait des langues de chat, alors...
Ah oui, t'as peut-être raison.
Bon, bon,
oui. Ah, je sais. Un soufflet. Un beau soufflet.
Ah, un soufflet, ah oui, très bonne idée. Et alors, pour peu qu'il soit en retard, le soufflet, après, là, bravo.
Bon, bah, écoute, pour les entrées, hein, je verrai sans toi. Oui. En tout cas, pour après, je sais ce que je vais faire. Oui. C'est une recette nouvelle, je l'ai découpée. L'épaule d'agneau farcie au saumon.
Ben, mais tu vas tous les faire mourir, c'est pas possible.
Ah, vraiment, tu ne m'aides pas beaucoup. C'est tout de même pour toi que je me donne tout ce mal, moi.
Je te dis que j'ai changé d'avis. Je ne veux plus de ce dîner avec les mouches-boum.
Quoi? Pourquoi?
Parce que je n'ai pas de robe, que je n'ai pas de bijoux et que je ne sais pas conduire une auto.
Chérie, qu'est-ce qui t'arrive ?
Il m'arrive que je ne veux pas avoir l'air d'une gourde en face de madame Moucheboum.
Une gourde ? Comment ça, une gourde ?
Tu crois que madame Moucheboum n'a que sa robe de fiançailles à se mettre quand elle doit s'habiller pour sortir ? Ben non, moi, si.
Mais pas du tout. Tu as ta robe vert amande qu'on t'avait achetée pour les 60 ans de ton pélagie.
Mais j'en peux plus de cette robe, je la mets tout le temps.
Non, désolé, non, tu la mets pas tout le temps.
Tu crois que Madame Mouchboum a pour seul sujet de conversation sa maison, sa famille? Non, Madame Mouchboum est une femme moderne, brillante, indépendante, alors que moi je ne suis qu'une petite bourgeoise étriquée qui ne sait rien faire d'autre que la cuisine. Oui, alors ne compte pas sur moi pour me faire humilier comme ça pendant toute la soirée. Je préfère renoncer à ce dîner. Voilà.
C'était la maman du petit Nicolas. Le petit Nicolas, un autre tube des années 60. Cette maman refuse ce rôle d'ange de la maison et veut devenir une femme moderne.
C'est un sujet qui a échappé longtemps à l'étude. Trop peu intéressant pour les uns, trop peu féministe pour les autres. La femme au foyer, d'il y a 50 ans. En 1967, la bonne ménagère est pourtant un modèle central de la société française. La formation technique aux arts ménagers compte de nombreuses élèves, témoignage de l'existence de savoirs pratiques. Ces millions de femmes, aujourd'hui retombées dans l'oubli, jouaient un rôle fondamental. Pourtant, la femme au foyer est toujours un objet qui divise, modèle ou repoussoir, entre le paradis perdu d'une société bien ordonnée et l'image honnie d'un patriarcat oppresseur. Et si on faisait leur histoire ?
L'histoire de vos grands-mères et l'histoire de nos mères.
Avez-vous vu un homme tout nu sortir soudain de la salle de bain, déjà chauve et un peu ventru et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au coin, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez d'amant 4 fois par mois. Ah, la belle vie que ce sera si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas.
Michel Arnaud, grande vedette des années 60, les productrices déléguées de La Marche de l'Histoire, c'était aujourd'hui Claire Milon et Ilinka Negulesco. À la réalisation, Valérie Estaraï. À la technique, Élise Christophe, Gilles Gaillard. Alors, c'était Mathieu Vidard, les années Sainte-Chérie, les années Nounours.
Oui.
Et vous, c'est les années
Calimero. Oui, Bougon et Grincheux. Voilà, gloire à eux. Nous allons nous intéresser au syndrome du Calimero dans un instant.